Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Éducation, santé, environnement. Ça fait 10 ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de la story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
Capitaine, des pirates! En 1998, la télévision japonaise sort le premier animé du manga à succès One Piece. Celui-ci est sorti à peine un an plus tôt et va provoquer un engouement rare. Ce manga, en 95 volumes, se serait vendu dans le monde à environ 500 millions d'exemplaires, deux fois plus que la série Dragon Ball en 42 livres, ou que Naruto et ses 72 épisodes.
Nani ?
Des best-sellers qui ont su dépasser l'archipel japonais pour conquérir le monde. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va plonger dans l'univers des mangas devenus les nouvelles stars de la BD.
Merci. À propos, je m'appelle Tintin.
Haddock. Archibald Haddock.
En France, on connaît la BD franco-belge avec ses stars Tintin, Astérix, Lucky Luke ou encore Black et Mortimer. L'an dernier, la fille de Vercingétorix, le 38e album des aventures du petit Gaulois et de son ami Obélix, s'est vendu à 600 000 exemplaires en à peine une semaine. Et au total, sur l'année, il a approché les 1 600 000 ventes. Mais Astérix est loin d'être le seul personnage à avoir boosté les ventes de bandes dessinées. Les mangas ont une nouvelle fois dynamisé ce marché. Selon les chiffres de GFK, sur les 50 plus grosses ventes de BD en France en 2019, on retrouve pas moins de 20 mangas, du jamais vu depuis 2007. Au total, ces 20 tomes se sont écoulés à 1 400 000 exemplaires. En 2018, les mangas représentaient d'ailleurs 38% du marché de la BD en France. C'était le segment le plus dynamique. À la maison, les étagères de mes ados sont pleines de mangas quand le dernier Tunique Bleue, vieux souvenir de mon enfance, peine à les faire se détourner de Tokyo Ghoul, de Full Metal Alchemist, d'Astra Lost in Space ou de Seven Deadly Sins. Un conflit de génération dont il ne vaut mieux pas parler à table. Mais pourquoi le manga star de la BD au Japon plaît-il autant en France? Et pas seulement aux ados et aux enfants. Raphaël, le libraire de BD et compagnie que vous avez pu entendre dans un précédent podcast sur la BD en témoignait. Chaque nouvelle sortie est attendu avec impatience par une flopée de lecteurs.
C'est assez rigolo puisque quand certains titres sortent, ceux qui les suivent, ils viennent dès le mercredi après-midi, ils sortent des cours et puis ils achètent leur manga. Donc c'est assez rigolo. Et puis le samedi aussi, avec les parents. C'est un peu, voilà, les parents achètent une BD pour eux et puis les enfants achètent les mangas qui suivent tout simplement. Et donc, ouais, c'est surtout le mercredi et le samedi, ouais, le manga.
J'ai voulu comprendre. Et pour ça, je me suis adressé à un spécialiste. Mathieu Pinon est journaliste. Il collabore avec les magazines spécialisés Animeland et Coyote Mag. Mais il est surtout l'auteur, avec Laurent Lefebvre, de Histoire du manga moderne. Dans cet ouvrage, il raconte 69 ans de cet art majeur au Japon. Un art qui est né bien avant la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Le manga est né au milieu du 19e siècle, tout du moins le terme manga, à l'époque de Hokusai, le grand maître de l'estampe. Et Hokusai faisait des croquis, des essais pour pouvoir capter au mieux le mouvement d'un oiseau ou d'un paysan en train de planter le riz pour ses estampes finales. Et ses croquis, ses brouillons, il les a appelés manga, ce qui veut dire littéralement dessin dérisoire, dessin sans importance. Et ses carnets de manga, finalement, il a fini par les vendre. Ils ont été édités en plusieurs exemplaires pour que les apprentis dessinateurs, les apprentis estampistes, je ne sais pas si le terme se dit, mais vous m'avez compris, puissent eux aussi s'entraîner en suivant les conseils du maître. Et du coup, le terme manga a été repris au XXe siècle pour désigner la bande dessinée. Du coup, c'est pour ça que dans le livre, je parle de manga moderne pour bien faire le distinguo avec le manga de Hokusai, qui n'est pas du tout la même chose.
Donc un développement hein, tout au long du début du XXe siècle, et puis un coup d'arrêt pendant la Seconde Guerre mondiale.
Exactement, ce qui se comprend tout à fait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, comme pendant toute guerre, le pays est plus censé se tourner vers l'effort de guerre que vers le loisir et la détente où on ne fait rien. Ça, c'était une des premières raisons. Et la deuxième raison, c'est qu'il y avait également une grave pénurie de papier et que le papier était essentiellement consacré à la paperasserie importante, militaire. Et donc, la place pour la bande dessinée dans les journaux était réduite à peau de chagrin, voire complètement disparu.
Il y avait aussi un effet de censure, peut-être, par rapport à certains mangaka qui pouvaient être un peu subversifs ?
Pas tant pendant la guerre. En revanche, l'après-guerre a connu une première période de censure, puisqu'il y a eu, on va dire, de l'occupation américaine avec MacArthur. Et donc, pendant 6 ans, le Japon a vraiment commencé à se reconstruire très très vite. Il y avait une envie de loisir de la part des Japonais. C'est pour ça qu'on a pu voir notamment le cinéma exploser dans les années 50, vraiment une grosse reprise du cinéma japonais. Et au niveau des mangas, les dessinateurs étaient priés de ne pas reprendre tout ce qui pouvait être histoire de samouraï, histoire de karatéka, tout ce qui pouvait renvoyer au Japon d'avant avec un esprit martial, l'esprit du Bushido, que les États-Unis cherchaient avant tout à museler. Donc là, il y a eu une première période de censure qui a disparu une fois les Américains partis.
Mathieu Pinon, on dit manga, mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire les mangas ?
Effectivement, c'est très très vaste le champ des mangas. De même qu'on parle de la bande dessinée en France, on pourrait parler des bandes dessinées. Il suffit par exemple d'aller chaque année à Angoulême et de voir 3 expos différentes pour se rendre compte qu'on voit 3 styles radicalement différents. Entre Astérix, Alix, Le Chat du Rabbin et Tom Tom et Nana, on parle de 4 BD et pourtant ce sont 4 styles radicalement différents. De même, on peut trouver des mangas pour absolument tout le monde. Là, le champ des possibles au Japon est gigantesque. On parle souvent de catégories éditoriales. On va parler de shonen pour les jeunes adolescents, de shoujo pour les jeunes adolescentes, de seinen pour une lecture plus adulte. Quand c'est une lecture plus adulte à tendance féminine, on va parler de josei. Il y a beaucoup de catégories éditoriales qui sont là, mais c'est parce que le marché éditorial au Japon est extrêmement subdivisé. Si vous êtes un homme dans la 60aine et que votre passion primordiale, c'est le golf, il y a au moins 10 de séries qui s'adressent à vous. Si vous êtes une femme dans la 40aine que votre passion principale, c'est la cuisine, il y a 100 de mangas qui s'adressent à vous. C'est très 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 vaste.
C'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a quelques années, j'ai découvert Café Dream, un manga autour du café. L'histoire était un peu mièvre, mais on apprenait énormément de choses sur cette matière première. Je me souviens aussi de la découverte de Termae Romae, un seinen humoristique de Mari Yamakasi, presque une étude comparée des bains romains et des bains japonais. Mathieu Pinon, je me suis rendu plusieurs fois au Japon. Je me souviens d'une chose qui m'avait impressionné. Dans le métro, on pouvait trouver de gros magazines de manga qui avaient été laissés sur un siège par des voyageurs, un peu comme les journaux gratuits en France.
Ils sont vraiment partout. Il faut bien prendre conscience que le principal magazine de prépublication de manga, si on prend le magazine Spirou, quand on l'achète toutes les semaines, on a 2 ou 3 pages de son feuilleton préféré, et puis on peut ensuite acheter l'album relié si on le souhaite. C'est exactement la même chose au Japon, si ce n'est qu'un magazine de prépublication doit faire dans les 300 pages. Il y a 30aine de séries à l'intérieur, et ça coûte 300 yens, ce qui fait 2,50 €. C'est dérisoire. Et donc, quand on le prend, on le lit, on le feuillette, et une fois qu'on l'a lu, on va pas se promener avec un annuaire sur soi. Donc, généralement, les gens le laissent dans le métro, et les voyageurs suivants peuvent le prendre et le lire. Et ce qui arrive très souvent, d'ailleurs, le jour de sortie des magazines, c'est qu'on va pouvoir voir éventuellement des SDF, des clochards, donc on n'en voit pas souvent à Tokyo, ils sont généralement très très bien cachés, mais qui vont les récupérer pour ensuite, le soir, aller à la sortie des écoles et des collèges pour les revendre à moitié prix. Et donc, la majorité des éditeurs au Japon ne prennent pas en considération forcément le nombre de ventes stricto sensu, mais le multiplie par 4 ou 5, car ils savent que n'importe quel magazine aura été prêté à un copain, laissé sur le banc d'une station de métro et récupéré par quelqu'un d'autre, donc il n'est pas lu que par une seule personne.
De quand date l'internationalisation du manga en France ?
L'arrivée du manga en France se fait au début des années 90. Le premier vrai choc, c'est Akira. Merci. dû arriver en 88, 90, quelque part par là, grâce à Jacques Léna. Ensuite, Jacques Léna a continué son sillon en reprenant des mangas qui étaient connus par les Français, car leurs adaptations en dessin animé faisaient un grand succès au Club Dorothée. Donc on a été rétrospectif, on a trouvé la source originelle après avoir vu la version dérivée animée. Donc il y a eu Dragon Ball, Sailor Moon, Dr. Slump, Ranma demi à l'époque, plus un titre inédit qu'on ne connaissait pas qui s'appelait Gunm, dont l'auteur Yukito Kishiro est invité à Angoulême cette année. Et puis d'autres éditeurs ont commencé à arriver, comme Tonkam, puis Kana, et j'en passe. Donc ça a commencé au milieu des années 90, et ça s'est vraiment, vraiment installé au début du millénaire. Ça fait 25 ans que ça a commencé littéralement, et 20 ans que c'est là pour de bon.
Alors d'après ce que j'ai lu, par exemple, Dragon Ball s'est vendu à 18 millions d'exemplaires en France, ce qui est considérable. Il y a un rôle très important justement de la télévision, du dessin animé dans l'explosion des ventes des mangas en France.
Historiquement, oui. Vraiment, on ne peut pas nier du tout le facteur du Club Dorothée sur l'explosion du secteur manga en France.
C'est bon de revenir.
Ça a été un canal de diffusion pour je ne sais pas combien de séries. Alors, on parle très très souvent du Club Dorothée, mais il y a un deuxième vecteur à prendre en compte qui était la 5. Également, à l'époque, la 5, Berlusconi avait repris tous les dessins animés qu'il diffusait en Italie pour les passer en France, et il y avait un gros gros stock de dessins animés japonais également. Donc on a eu toute une génération qui a été élevée avec ces dessins animés japonais. Quand le manga est arrivé, c'était tout naturel de retrouver les histoires qu'il connaissait déjà, mais développées d'une manière différente, et surtout qu'on pouvait lire et relire à volonté. On n'était pas obligé d'attendre la diffusion chaque jour au Club Dorothée, ou de devoir enregistrer des cassettes vidéo. Là, on reprenait le manga, on pouvait tout de suite se replonger dans les aventures qu'on connaissait.
Vous, c'est le Club Dorothée qui vous a fait découvrir les mangas ?
J'ai découvert les dessins animés japonais avant le Club Dorothée. Je suis plus de la génération Récréa 2. Voilà, génération Goldorak, génération Tom Sawyer. Donc j'ai prolongé mon expérience de dessins animés japonais grâce à Dorothée. Et quand les mangas sont arrivés, c'était à l'origine, vraiment, on a eu les titres adaptés du Club Dorothée qui sont arrivés en manga. Donc, par exemple, il n'y a pas eu le manga de Cobra qui passait sur Antenne 2 qui est arrivé en France. En revanche, on a eu le manga de Dragon Ball qui était diffusé au Club Dorothée. Donc, quelque part, c'est vraiment le Club Dorothée qui est le plus lié au développement des mangas, même si c'est pas le seul vecteur qui a amené beaucoup de jeunes à s'intéresser à l'animation japonaise.
Les mangas ont semble-t-il aussi su féminiser leur clientèle, peut-être plus que la BD traditionnelle.
60% des consommateurs de mangas sont des femmes en France, et c'est tout à fait normal. Je citais tout à l'heure le genre du shoujo manga, il ne faut pas oublier comment au Japon, il y a beaucoup de mangas qui sont dessinés par des femmes, pour des femmes. Les lectrices sont loin d'être une portion congrue et d'être une portion négligée par les éditeurs, alors que historiquement, en France, depuis la BD Gros-Nez, on est vraiment sur un public majoritairement masculin.
La BD Gros-Nez.
La BD Gros-Nez, c'est ainsi qu'on parle de la bande dessinée franco-belge avec des Astérix, des Gaston Lagaffe, des Achille Talon, voilà, c'est tout un genre de bande dessinée, historiquement Pilote, Spirou, Tintin, enfin, toutes ces bandes dessinées-là. La place de la femme n'est pas particulièrement développée. Il n'y en a pas beaucoup avec des héroïnes. Et quand on a des héroïnes, elles vont être généralement très sexuées, comme Natacha, hôtesse de l'air. C'est la première à laquelle je pense. Alors, quand je dis qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas beaucoup. On pourra toujours trouver quelques contre-exemples. En revanche, si vous allez au Japon, des bandes dessinées avec des héroïnes pour les filles, mais il y en a à foison. Ça va de Sailor Moon à Sakura, chasseuse de cartes, en passant par Jeanne et Serge, si on veut remonter au titre un peu plus vieux. C'est très, très, très fréquent et très courant. Par conséquent, quand ça arrive en France, mais les lectrices sont très contentes d'avoir des titres qui s'adressent à elles. C'est quelque chose que le marché français ne leur proposait pas. Donc c'est vraiment normal qu'elles s'y retrouvent.
Le prix des mangas, c'est aussi un atout ?
Bien entendu. L'année 2019 a été une année impaire, donc une année avec un Astérix. Astérix, à lui seul, fait 1,3 million de ventes. Et deuxième, on a Black & Mortimer, qui doit être à 200 000 ou 300 000. L'écart entre les deux est gigantesque. Mais si vous prenez le prix du Black & Mortimer, il est à 15 ou 16 euros. L'Astérix, il est à 10 euros. Astérix fait partie de ces rares BD qui ne sont pas encore à deux chiffres au niveau du prix, c'est 9,90 pour être précis, et ça justifie totalement que les gens l'achètent parce que c'est pas cher, mais dès qu'on veut acheter une bande dessinée franco-belge, on est au minimum à 12 euros, mais généralement on est plus de l'ordre du 15-20 euros. Si vous prenez les 5 séries manga qui cartonnent actuellement, les 5 mangas, ils sont tous entre 6,60 et 7 euros. Pour le prix d'une bande dessinée, on a deux mangas. Et pour un jeune qui n'a pas forcément un budget gigantesque, c'est beaucoup plus rentable.
Alors en 2016, la France est devenue le plus gros consommateur de mangas dans le monde, derrière le Japon, bien sûr. Mais justement, comment évoluent les ventes de mangas au Japon ? J'ai cru comprendre que ça se tassait un peu.
C'est compliqué. Les ventes de mangas au Japon, il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. Il va y avoir les ventes des magazines de prépublication, les ventes de volumes reliés, et dernièrement, les ventes en numérique. Donc, on a clairement le facteur des magazines qui se tassent. Les ventes de magazines descendent, mais ça, ça fait depuis 15 ou 20 ans. On est vraiment habitué maintenant. En revanche, les éditeurs ont été très, très, très lents à prendre le virage numérique. Mais là, ils le prennent et ils le prennent bien. Donc, on voit les ventes en numérique qui grimpent, mais de manière exponentielle. C'est beaucoup plus important que ce qu'on pouvait penser. Et en revanche, le troisième facteur, qui est vraiment le nerf de la guerre, les volumes reliés, ça va, ça se tasse pas trop de ce côté-là. Il faut bien prendre en compte que pour les éditeurs, alors, au Japon, à l'heure actuelle, il y a tout à gagner de ce côté-là, puisque les magazines de prépublication sont en quelque sorte des gigantesques fascicules publicitaires payants. Mais ils sont vendus à perte. Quand ils sont vendus à 300 yens pièce, l'éditeur perd de l'argent en faisant ça. En revanche, il rentabilise cet investissement grâce aux ventes de ce qu'on appelle les tankobon, les volumes reliés. C'est vraiment là où se font les bénéfices. Mais si il donne un accès gratuit à l'équivalent de son magazine en version numérique, lui, il y gagne, puisque l'accès gratuit, c'est toujours mieux que de la vente à perte. Donc, il y a un nouveau modèle économique qui est en train de se faire, ce qui fait qu'il est possible que les magazines viennent à disparaître, mais ça va prendre un temps fou. Parce que vous imaginez bien qu'il y a toute une chaîne de distributeurs, il y a toute une chaîne d'imprimeurs, il y a de libraires qui ne veulent pas que ces magazines disparaissent parce que bah, eux, ça leur rapporte. On est dans un virage, on est dans un gros changement et c'est un changement qui va se passer sur plusieurs décennies. Ça implique tellement de couches professionnelles autres que ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Mais c'est en train de se faire, vraiment.
Car la France est un véritable Eldorado. Cet engouement pour la pop culture nippone offre des débouchés commerciaux importants au point de faire de l'Hexagone le second marché mondial. Près de 600 exposants viennent à la Japan Expo pour proposer au public les dernières tendances de la culture manga.
On vient d'entendre ce reportage de BFM TV à la Japan Expo. Est-ce que les mangas ont contribué à changer l'image que l'on avait du Japon en France?
Le manga a contribué au changement d'avis des Français sur le Japon. Il y a eu beaucoup de facteurs encore qui sont à prendre en compte. On peut notamment prendre ne serait-ce que le temps qui passe. Je suis de 77. Quand j'ai grandi, j'ai connu des personnes qui avaient fait la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais, la seule notion qu'ils en avaient, c'est que ça avait été les alliés des Allemands. Par conséquent, les Japonais, c'était pas bien. Avec le temps qui passe, on oublie les rancœurs, etc. Et de même que l'amitié franco-allemande a pu se refaire, une amitié franco-japonaise s'est refaite. Il y a eu donc les mangas qui ont permis notamment de mieux comprendre la culture japonaise, c'est-à-dire comment ça se passe le Japon d'aujourd'hui, comment fonctionne le système scolaire, le fait que non, les Japonais ne sont pas forcément que des monstres de travail. Il y a d'autres facteurs qui ont fait en sorte que le Japon et la France se sont rapprochés, les facteurs artistiques. Le japonisme qu'on avait connu à la fin des années 1800, on l'a retrouvé tout naturellement. Les Japonais et les Français sont des passionnés de gastronomie. Les Japonais et les Français détestent la langue anglaise. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que, naturellement, malgré la distance, les deux pays s'entendent beaucoup. Donc les mangas ont beaucoup contribué à ça, mais pas que. Parce que si on va par là, on peut aussi dire que le judo a contribué. Et quand on voit des Teddy Riner ou des David Douillet qui ont des carrières colossales dans ce sport, si la France est autant investie dans le judo, c'est que la France aime le judo. Or, le judo est japonais. Donc, on ne peut pas nier l'impact des mangas, mais limiter le rapprochement culturel entre la France et le Japon au manga, c'est vraiment faire abstraction de beaucoup trop d'autres facteurs.
Oui, on pourrait rajouter Jacques Chirac, qui avait une passion immodérée pour le sumo.
Tout à fait.
Un dernier mot. Quel a été votre premier manga, celui que vous avez lu en premier?
Alors, je ne suis pas très original, ça a été Akira, que je lisais à la bibliothèque. Le premier que j'ai acheté, c'était Video Girl Eye, à l'époque, parce que c'était un petit éditeur qui s'appelait Tonkam, qui venait de se lancer. Et il y avait le plaisir de découvrir une histoire que je ne connaissais pas. Autant si je lisais Dragon Ball, Ranma ou Sailor Moon, je me retrouvais dans le dessin animé que j'avais déjà vu au Club Dorothée, donc je connaissais l'intrigue et les personnages. Avec Video Girl Eye, j'ai vraiment eu le plaisir de découvrir un univers de manière complètement vierge, voilà. Et en plus, c'était une petite romance adolescente très sympathique qui traitait des problèmes sentimentaux entre lycéens. Là encore, quelque chose que la bande dessinée franco-belge n'abordait pas. Et donc, j'avais tout en un, à la fois le plaisir de découvrir une nouvelle histoire et d'aborder un sujet qui n'était pas trouvable dans la bande dessinée franco-belge habituellement.
En 2018, une BD sur trois vendue en France était un manga. Et en moyenne, les 18-25 ans ont dépensé 113 euros pour s'offrir ces livres ou les lire en format numérique. Car les mangas font aussi un carton sur Internet et notamment sur la plateforme Isneo, comme me l'a expliqué son président Luc Boursier.
On voit un attrait pour toute la culture asiatique un peu partout et particulièrement dans l'édition, avec des scénarios peut-être un peu plus agressifs peut-être ou un peu plus accrocheurs que ceux de la bande dessinée traditionnelle. On le voit également en numérique, puisque en fait aujourd'hui, parmi les différents segments de la bande dessinée, on voit qu'en numérique en tout cas, le manga progresse rapidement, plus rapidement que la BD franco-belge traditionnel, plus rapidement même que le comics. Et c'est aujourd'hui un des premiers leviers de croissance pour le numérique.
Et notamment pour vous, il y a une offre très importante sur Isneo en matière de manga.
Oui, aujourd'hui, nous, on fait à peu près 30 à 35% de notre activité dans le manga. Et cette part ne cesse de croître.
On parlait de ce succès des mangas. Il y a une diversité. En fait, tout le monde peut y trouver matière à ce qui l'intéresse. Les filles, les garçons, les adultes, les plus jeunes.
Alors, c'est tout à fait vrai, d'autant que en numérique, on a également un choix peut-être encore plus élargi que dans le papier, puisqu'on a des formats ou des genres à l'intérieur du manga qui sont notamment dans la romance, dans même l'érotique, et qui sont pas forcément toujours très représentés dans les rayons des librairies, et qui connaissent un vrai succès en numérique, justement.
Vous avez fait une étude sur les usages de la lecture numérique. Il ressort notamment que l'âge moyen des lecteurs de BD, alors ce qu'on appelle les BD dites franco-belges, les Tintins, les Astérix, qu'on a bien connus, cet âge moyen, les 37 ans pour les formats numériques, cette moyenne tombe à 27 ans pour les mangas. On les penserait plus jeunes.
Oui, alors, mais comme je le disais tout à l'heure, ils ont vieilli, ces lecteurs, comme nous tous. Ils ont des enfants, mais c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, le lecteur moyen est à peu près donc à 27 ans en digital. Il y a un autre format qui concurrence, en tout cas en numérique, le manga, mais qui part un peu des mêmes bases, c'est le webtoon, qui est donc un format de type coréen, enfin qui vient de Corée en fait, qui permet de lire et qui a été conçu pour ça, donc pour lire des récits sur le smartphone et qui sont un peu dans le même univers que le manga. En gros, les dessinateurs sont des dessinateurs asiatiques qui sont très dans le style de dessin des mangas et des manhwas coréens. Et au fond, la différence, c'est qu'il n'y a pas de version papier de ses créations et on les trouve que dans le digital. Et là, de la même façon, on voit que c'est plus encore que le manga, un levier de croissance très fort pour le digital, puisque nous, on voit que la part de lecture des webtoons dans le total des lectures Disneyo ne cesse de croître. Juste pour vous donner un chiffre, en 2019, il s'est lu 3 millions d'albums, donc digitaux, sur Disneyo. Et le webtoon a représenté 14% de ses lectures. Et cette part croît extrêmement vite. Et on voit qu'il y a un vrai intérêt. Et c'est un peu le manga, pour revenir à votre point, c'est un peu le manga des plus jeunes, quelque part. Je pense qu'il y a une question aussi qui est essentielle, c'est le temps de session de lecture. Le webtoon, un épisode, ça se lit en 3-4 minutes. Donc, ça correspond bien au rythme de vie des plus jeunes, et y compris de nous aujourd'hui dans la vie moderne. C'est plus simple de s'engager pour une session de lecture de 3-4 minutes que pour un ouvrage qui va prendre 30 minutes, ou sans même parler des romans où on est en heure, en 5-6 heures de session de lecture. Donc, c'est ce découpage aussi qui fait que c'est plus facile d'entrer dans un webtoon.
Vous êtes dans le milieu de la BD depuis un certain temps. Est-ce que les mangas ont d'une certaine façon, alors le mot peut-être un peu fort, sauvé la bande dessinée?
C'est une question à laquelle il n'est pas simple de répondre. Dans le monde, il y a quelques grands marchés de la bande dessinée, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a les États-Unis qui a produit le comics, il y a le Japon qui a créé le manga, il y a la France, la Belgique qui ont créé la BD franco-belge. Donc, et au fond, on voit que aujourd'hui, aux États-Unis, au Japon, ces pays restent lecteurs de leur propre production. En France, on a, à l'inverse, une diversité de formats et donc une perméabilité aux cultures étrangères qui est très forte. Donc, on lit de tout, finalement. On lit des comics américains, on lit des mangas japonais. Donc, ça a permis, je dirais, non pas de sauver, mais de relancer l'intérêt, peut-être, sur le format bande dessinée de manière générale auprès des générations. Donc, dans les années 80-90, effectivement, le manga a connu vraiment un grand succès et donc a renouvelé l'intérêt sur la bande dessinée. Et nous, ce qu'on espère, c'est qu'avec le webtoon, on va relancer l'intérêt également sur des générations montantes avec un nouveau format.
Merci Luc Boursier de isneo.com et merci Mathieu Pinon, auteur de Histoire du manga moderne avec Laurent Lefebvre aux éditions Inis. La nouvelle version est sortie le 3 juillet dernier avec une très belle couverture de Tony Valente. La Story, le podcast d'actualité des Échos présenté par votre serviteur Pyrix, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Ganix, chargé de production et d'édition Michel Varnix. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, en streaming ou en téléchargement. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions, notamment celles sur la bonne santé des librairies spécialisées en BD. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.